Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la place dérangeante des franco-protestants en Nouvelle-France. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Vous écoutez présentement la 3e émission de cette série. Pour vous mettre dans le contexte, je vais commenter des citations du livre de Rieul Duclos intitulé « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Nous avons amorcé, lors de la dernière émission, le premier chapitre qui s'intitule « Les protestants français sous le régime français » de 1600 à 1759. Et donc, maintenant, nous allons aborder l'origine de la colonie. Et on retrouve ça à la page 13. Voici ce qu'on nous dit. Jean Cartier avait découvert le golfe Saint-Laurent et ses côtes. Il y avait laissé quelques colons qu'il rapatria lors de ses derniers voyages. Et donc, on veut établir une colonie en Nouvelle-France. On veut que des colons puissent s'y installer. Mais les débuts sont pénibles. Et on va voir qu'en 1578, quelques décennies après la venue de Jean Cartier, le premier essai de colonisation. Voici ce que nous dit Duclos. Le premier essai de colonisation est dû à l'initiative du marquis de La Roche. Malheureusement, il n'aboutit qu'à la catastrophe de l'île des Sables qui décima les colons. Quand plusieurs années plus tard, on revint sur le théâtre du désastre, on y retrouvera des 40 hommes qu'on y avait laissés, que 12 survivants. Et ça, mesdames et messieurs, c'est important. C'est important parce que les colons doivent faire face à un hiver long et rigoureux. C'est la réalité de la Nouvelle-France. Mais on va persévérer à vouloir peupler ce territoire-là. Et qui ont le courage, ont l'audace de vouloir quitter l'Europe, quitter l'Occident de l'époque pour peupler cette terre inconnue ou si peu connue? Eh bien, ce sont les Huguenots, les franco-protestants. L'édit de Nantes, comme on en a parlé à la première émission de cette série et à la deuxième, qui est quand même un édit qui est censé rassurer les Huguenots, qui est censé leur donner un espace, une certaine place, eh bien, en définitive, ne rassure pas du tout les franco-protestants. Ce que Duclos nous dit à cet effet, c'est que, instruit par les expériences du passé, il y eut parmi les anciens persécutés des chefs de famille insuffisamment rassurés, et on les vit partir à l'aventure, désireux de trouver quelque part une terre française sur laquelle ils pourraient librement servir le Dieu de Jésus-Christ. Ce qu'ils veulent en fait, là, les franco-protestants, les Huguenots, ils veulent pouvoir librement servir leur Dieu en français. Et malgré qu'en France, on leur donne de l'espace, la persécution et les problèmes qu'ils ont dû faire face, les pousse à vouloir s'aventurer vers cette Nouvelle-France. Ce qui arrive, c'est qu'en 1599, une année après l'édit de Nantes, on voit que Pierre Chauvin, capitaine normand et huguenot, va organiser une nouvelle expédition. Voici ce que nous dit Duclos à cet effet. Chauvin jouissait à la cour de la faveur royale. Un jour, il reçut l'ordre d'assurer au Canada tout le commerce des pelleteries. Les pelleteries, c'est le commerce des fourrures. Il était déjà très important. Il avait reçu l'ordre de bâtir une enceinte fortifiée autour de laquelle s'établiraient des familles françaises. C'était pour les protestants persécutés, malgré l'édit royal, une occasion favorable dont ils s'empressèrent de profiter. Plusieurs familles prirent la mer et s'en vinrent chercher au Canada une terre moins ingrate. Et ça, c'est une phrase clé, mesdames et messieurs. Plusieurs familles prirent la mer et s'en vinrent chercher au Canada une terre moins ingrate. Après un long voyage de plusieurs mois, l'expédition s'arrêtait à l'embouchure du Saguenay, près de Tadoussac. Et là, on est rendu en 1600. Je poursuis. Au nom du roi de France, Jean Cartier avait une première fois pris possession de ses terres nouvelles. Chauvin s'y établit au nom du roi des rois et proclama immédiatement la liberté religieuse. C'est exactement le motif. Le motif des franco-protestants de l'époque, c'était, comme je vous l'ai dit, de se trouver un lieu où est-ce qu'ils pouvaient être libres. Ils voulaient une liberté de conscience, une liberté d'expression et une liberté de religion. Je poursuis. Malheureusement, on avait peu de provisions. On avait compté sans les rigueurs d'un hiver toujours long et pénible et la colonie fut décimée par la faim et le froid. Et là, Rieul Duclos nous fait apparaître un personnage qui est quand même marquant. Et là, mesdames et messieurs, à la page 15 de son livre, Rieul Duclos nous fait mention de M. Demont. Voici ce qu'il nous dit à son sujet. M. Demont, qui connaissait l'histoire de l'expédition Chauvin dont il était l'ami, tenta pourtant une nouvelle entreprise, muni de la patente qui le faisait lieutenant général de l'Acadie, pour la faire habiter et cultiver, il s'embarqua en 1604. Il avait avec lui un grand nombre de gentilshommes, un prêtre et quelques pasteurs et 120 artisans. La présence d'un seul prêtre dans une expédition où l'on compte plusieurs pasteurs établit surabondamment que la grande majorité des nouveaux colons étaient constitués par des protestants. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait une détermination chez les protestants de s'établir. Mais il y avait un grand nombre de pasteurs. Et ça, ça voulait dire qu'il allait y avoir une grande communauté franco-protestante. S'il y a un grand nombre de bergers, c'est parce qu'il y a un grand nombre de brebis. Je continue. Voyant que les protestants allaient s'établir dans une nouvelle terre francophone, eh bien, il y a des gens que ça dérangeait, évidemment. Et donc, il y a une personne qui a joué un rôle clé pour freiner l'élan des protestants. C'est la marquise de Guercheville. Voici ce que nous dit Duclos à cet effet. Il appartenait à la marquise de Guercheville de troubler ces temps de paix. Parce qu'il y avait une paix qui s'est installée, parce que les franco-protestants, les huguenots, pouvaient bâtir, défricher, se sentir chez eux en pleine liberté. Mais voici ce qui est arrivé. C'est alors que cette dame se mit à remuer ciel et terre pour que fût levé l'embargo. Elle réussit, et le navire quitta les côtes, emportant à son bord les jésuites inévitables qui allaient s'établir dans la colonie et qui, selon l'expression d'un des leurs, allaient lui donner une direction nouvelle. On sait quelle direction ces messieurs pouvaient donner à une colonie en majorité protestante. Ils commencèrent par la calomnie, puis ce fut la persécution et l'anéantissement des protestants. C'était clair leur intention. C'était pas une visite guidée, c'était pas essayer de comprendre la culture des Amérindiens. Non, non. Selon leur expression, ou selon l'expression d'un des leurs, c'était de donner une direction nouvelle. Comment ça, une direction nouvelle? Parce que on voulait une version catholique de la Nouvelle-France. On ne voulait pas une version protestante d'un fait français. Et ce qui est intéressant là-dedans, et ce qui est malheureux en même temps, c'est qu'on savait que les pasteurs protestants commençaient à prendre de l'âge et il y avait un manque de relève. Je continue. Les protestants voyaient vieillir leurs pasteurs sans espoir de voir arriver des jeunes qui pourraient continuer leur œuvre. Découragés, sans conducteur spirituel, les protestants ne s'attachaient plus assez au sol, car ils n'attendaient qu'un moment favorable qui leur permettait d'aller chercher un nouvel exil, une situation qui leur assurerait une existence moins malheureuse. L'hiver, ils se retiraient en ville où ils faisaient du commerce. C'est de là que leur est venu le nom d'hivernants. C'est alors que les catholiques agirent dans un sens tout à fait opposé. Sur les conseils du prêtre, ils se fixèrent à la campagne et devinrent des habitants. C'est intéressant ici. Les protestants étaient des hivernants parce qu'ils quittaient leurs terres pour se rendre dans les villes pour y faire du commerce, alors que les catholiques, eux, étaient encouragés par les prêtres pour aller s'établir dans des terres. Et c'est pour ça qu'on les appelait les habitants. Je continue. Le clergé avait compris que l'avenir dépendait de la stabilité de ses ressortissants. C'est pourquoi il s'efforça de les attacher à la terre en exploitant l'intérêt et l'amour. C'était une politique prudente et bien avisée et les chefs de famille s'installèrent sur les terres qui allaient, par leurs produits, assurer la vie et l'avenir. S'abstenant de venir à la ville pour y passer l'hiver, on les appela les habitants et de nos jours, c'est encore sous ce titre qu'on désigne le cultivateur canadien. Moins riche que l'hivernant, l'habitant jouissait d'une moins grande considération, mais il n'en était pas moins seigneur des terres qui constituaient son domaine. Et donc, les prêtres ont encouragé les catholiques à devenir des habitants, à se bâtir un domaine, à se bâtir un lot pour élever une famille et pour peupler cette Nouvelle-France. Duclos va remarquer une chose en disant ceci. « Une instruction religieuse suffisante aurait eu, si l'on avait eu des pasteurs pour en prendre l'initiative, une influence considérable. L'influence s'en ferait sentir aujourd'hui. Hélas, tout manqua. Ce n'est pas que ceux qui étaient encore sur la brèche se négligeassent. Ils faisaient de leur mieux, joignant l'action à la parole. Mais ils étaient presque épuisés et leur nombre déjà restreint allait en diminuant. Mais ça ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. Les Récollets, qui est un ordre de moines catholiques, envoyèrent une députation à Paris en vue d'obtenir du roi l'expulsion des protestants de la terre canadienne. Je continue. On s'étonne de trouver des historiens modernes qui cessaient à justifier de telles démarches. M. Benjamin Soult les appelle un acte de vigueur et de patriotisme. Il ajoute qu'ils aient demandé l'expulsion des calvinistes. C'est la preuve d'un esprit pratique. Écoutez, l'expulsion des calvinistes. Les calvinistes, c'est les descendants ou les disciples de Calvin, donc les protestants, parce que Calvin était la figure protestante de la France. Et donc, on les appelait les calvinistes. Mais qu'ils aient demandé l'expulsion des calvinistes, c'est la preuve d'un esprit pratique. En voulant dire, c'est la meilleure chose qui ne peut pas arriver, c'est de voir les protestants disparaître. C'est exactement ce que le gouvernement du Parti québécois a fait en 1997 et en 2000 en changeant les lois sur les écoles confessionnelles et en enlevant aux protestants des droits fondamentaux garantis par la Constitution de l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Mais j'y reviendrai là-dessus. Garneau, dans la première édition de son Histoire du Canada, a montré plus de justice. Il exprima le regret que de pareilles démarches aient été possibles car elles portaient atteinte à la prospérité du pays. Il déplora que les Huguenots n'aient pas été tolérés, sinon encouragés. C'est incroyable, mesdames et messieurs. L'historien Garneau avait compris que si on expulsait les protestants, on affectait la prospérité du pays. Les Huguenots étaient des commerçants, n'oubliez pas. C'est des hivernants. C'est des gens qui quittent leur terre pour s'en aller en ville en hiver pour faire du commerce. C'est des gens pratiques. C'est des gens qui ont connu l'adversité, qui ont dû se débattre, qui ont dû se démener pour se tailler une place, pour survivre et pour assurer leurs longs jours et les jours de leur famille. Non seulement ils ont fait face à l'adversité, mais ils ont fait face aux calomnies, aux jeux de coulisses. Mais ce qui leur a fait le plus mal, et ça, c'est surtout à cause du climat, c'est le manque de relève. Je tiens à amener une précision, mesdames et messieurs. Ici, on va voir que dans ce pan de l'histoire, il y a eu une tension puis il y a eu des jeux de coulisses qui ont été organisés par des gens qui étaient en collaboration avec les catholiques. Mais aujourd'hui, la relation entre les catholiques et les protestants n'est plus la même qu'elle l'était à l'époque. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de nourrir une grogne contre les catholiques. L'idée ici, c'est tout simplement de mettre en valeur une histoire qui concerne les protestants. Mesdames et messieurs, je tenais à vous faire part de cette précision parce que lors de la prochaine émission, nous allons voir qu'il y a eu des tractations, des jeux de coulisses pour s'assurer que les protestants se convertissent au catholicisme. Mais c'est ce qu'on va voir demain, parce que c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Mesdames et messieurs, merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'horizon. Au revoir!